Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte, Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël avec vous.
What it do, baby?
Je suis content cette semaine. T'avais pas essayé de prendre mon rôle, donc je prendrai pas le tien.
C'est pas à toutes les semaines.
Ben non.
C'est un petit bonbon que j'ai donné aux gens.
L'élément surprise.
Et là, la semaine dernière, c'était la fête de Fred, puis Fred, il nous l'a même pas dit. Nous, on a reçu le podcast à côté de lui, il nous dit même pas que c'est sa fête.
J'étais tellement fâché.
T'es offusqué qu'il nous avait pas dit que c'était sa fête, goddammit.
Voyons.
Donc, bonne fête, Fred.
Bonne fête en retard, Fred.
Merci.
Vous pouvez nous écouter sur Cube, Stitcher. Est-ce que t'as parlé?
Oui. Il a dit merci. Là, c'est à peu près les trois mots qu'il a sur sa liste et qu'il a le droit de dire.
Vous pouvez les écouter sur Cube, Stitcher, Google Play, Apple Music, Spotify. Laissez-nous 5 étoiles, 5 Star, Frog, Splash. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @PatLaprade, @KevinRaphael21. Les antipodes extra disponibles lundi, que des bons mots. C'est malade.
Ah, écoute, ça a vraiment été le fun.
Je l'ai réécouté.
C'est un nouveau concept pour ceux là qui nous suivent plus régulièrement et qui ont peut-être pas pris encore antipodes extra. C'est un nouveau concept. Show d'une demi-heure, vraiment plus condensé, un débit plus rythmé, la même énergie de moi et Kevin, mais on revient en arrière. On vous donne des entrevues, on vous donne quelque chose, du contenu différent de ce qu'on parle habituellement sur l'émission. Pour le tout premier extra, on a fait une revue de Royal Rumble c'est 94.
Malade. Owen Hart. Comme j'ai envie de me faire un tatou d'Owen. Okay, Owen, c'est l'homme de ma vie. Après la revue, ben en fait, je l'ai écouté.
Ouais.
Puis après l'avoir écouté, j'ai fait, ah, je vais aller réécouter du stock de Owen. J'ai écouté 3 heures de Owen Hart.
Wow, que j'ai pas malade. J'ai pas ce temps-là.
Ah non, je l'ai pas non plus, c'est ça le fait.
Mais pour vrai, puis c'était le fun, la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Ils ont appris des choses, ils ont trouvé ça intéressant. Fait que,
on annonce-tu le prochain?
Ben, j'allais te dire la même chose.
L'aller devant moi, là.
Ben oui, oui.
Bon, vas-y. Ben, les gens nous ont envoyé plusieurs suggestions.
Ah non, mais c'est pas ça le prochain, là. Je sais où tu t'en vas, toi, là, mais c'est pas ça le prochain.
Ouais, je sais, mais la prochaine review, comme ça, ils ont le
temps d'écouter. Ah oui, c'est beau, c'est
ouais,
beau.
Le prochain review, pas le prochain extra, mais
le prochain... on veut-tu plug le prochain extra?
On peut, tu veux. Ben, non, parce que là, tu vas faire comme la dernière fois. Tu vas dire, oh là, est-ce que je peux le dire? Non, je peux pas le dire. Est-ce
non,
que
non, je le dis là, là.
Puis là, après ça, tu vas attendre jusqu'à la fin de l'émission pour être sûr que tout le monde écoute.
Je le dis là.
Come on!
T'as raison, Fred. Mais le prochain épisode, ça va être, dans le fond, on met les extras les lundis. Ils vont être publiés en ligne les lundis. Donc, le prochain, pas lundi qui vient, l'autre d'après, on va avoir une entrevue.
Dis-le pas.
Ah, ta gueule, je le dis. On va avoir en entrevue la meilleure lutteuse de l'histoire du Québec. Lufisto va être avec nous une demi-heure de temps. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool.
Oh yeah! Oh, pourquoi tu mets tout le temps ça qu'on parle de lutte féminine, Fred?
I like it!
Mais non, moi, j'ai hâte de rencontrer Lufisto. Moi,
tu l'as jamais rencontré?
Jamais. Okay. Moi, je veux dire quelque chose. Okay, j'ai fait des entrevues avec Guy Lafleur. J'ai fait des entrevues avec Patrick Roy.
Ouais.
J'ai fait des entrevues avec des grands noms. Okay?
Marie-Philippe Poulin.
Mais on dirait que Lufisto, vu que je l'ai comme tout le temps aimé depuis tout le temps,
ouais,
je suis comme, yo, je vais mettre un veston. Okay?
Tu vas mettre un veston?
Mais je pense que je vais me mettre beau parce que j'ai besoin de prendre ma photo avec elle. Puis, yo, j'ai hâte. Fait que,
wow!
Ouais, Lufisto, c'est ma co-fille. So, j'ai bien hâte de la rencontrer.
Ouais, donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et attends, le prochain revue, mais dis-le.
Je peux le dire, le prochain? Ben oui. Okay,
la prochaine fois qu'on va revisiter un pay-per-view, une émission de la WWE, ça va être?
Brian Deschênes nous a proposé WWF, WCW Invasion en 2001.
Hey, écoute, pis ça fit tellement bien avec, puis on va en parler tantôt avec le documentaire Ruthless Aggression, parce que le premier épisode parlait beaucoup justement de l'achat de la WCW, pis comment les choses se sont passées. Puis Invasion, c'était censé être quelque chose de gros, ça a été finalement...
Ben le pay-per-view a été gros, c'est juste le...
Ben c'est juste que les matchs étaient à chier.
Ben c'est ça. Mais hey, attends, on va pas tout donner notre extra live.
Non, faut faut que je le réécoute. Faut que je le réécoute okay, pour on, vraiment oui, m'en faire on, une tête.
Fait que réécoutez-le, puis dans quelques semaines, vous allez fait, avoir fait, une
Lufisto,
surprise. Fait
Lufisto, puis ensuite, Envision 2001. Ça va être vraiment le fun. Femme fatale, c'est, écoute, là, c'est cette semaine, là, c'est ce vendredi à Ottawa. Allez sur les réseaux sociaux de Femme fatale pour avoir tous les détails de où ça se déroule. C'est au St. Anthony's Banquet Hall. Mais toute une carte, on parlait de Lufisto. Mais
j'ai vu!
On a annoncé ce matin match sans disqualification contre Priscilla Kelly, que vous avez peut-être vu à la AEW récemment.
Pat?
Prends mon argent.
Non, attends. Ben oui, mais j'ai pas besoin... Parle à Priscilla Kelly, OK?
OK.
J'ai pas besoin de voir l'affaire du tampon dans la bouche de
Lufisto. Non. Elle l'a pas fait encore à Femme fatale, fait que t'es correct. Ensuite, on va avoir un gros match. Deux championnes qui vont s'affronter. La championne de Shimmer, Kimberly, qui a déjà lutté à NXT, contre une autre fille qui a déjà lutté à NXT, championne de Shine en Floride. Shine, là, Kevin, ça fait partie du groupe de Evolve, qui est un peu là, dans le giron de la WWE. Donc, Ivelisse qui va affronter Kimberly. On a annoncé également Nicole Savoy, l'ancienne championne Shimmer. C'était la demande de Mercedes Martinez. Mercedes Martinez, là, vous avez vu au Royal Rumble que vous voyez à NXT, ben, c'était la championne de Femme Fatale jusqu'à tout récemment. Elle a dû laisser aller son titre. Et exactement, et la condition dans l'histoire qu'on raconte, bien entendu, la condition, c'était que Nicole Savoy devait avoir un match de championnat et son adversaire va être annoncé sur place. Il y a trois autres combats également. On a du talent américain, Veda Scott, Nevea. On a Casey Spinelli de Toronto, Alexia Nicole de Toronto. On a des filles de la Nouvelle-Angleterre, Ashley Vox, que des fois on voit à NWA Power. Et également deux autres Québécoises, Maeve O'Farrell et Sally. Donc vraiment une grosse carte. Ça commence à 8 heures, meet and greet entre 6h30 et 7h30 et c'est à Ottawa, donc quittez l'île de Montréal tôt si vous voulez arriver à l'heure.
Puis n'oubliez pas d'aller écouter mon documentaire Gap Year sur YouTube, Facebook, n'importe où tu peux écouter quelque chose, mais là...
Attends, mais c'est fou pareil que tous les deux soient impliqués dans quelque part de sport féminin, je trouve
il
ça...
Faut,
c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on s'entend bien, toi puis moi. Bon. C'était mon moment... Mon moment cute.
Le moment pas podcast. Antipode, là?
Mon moment pas antipode.
OK,
exact.
Let's go, les nouvelles. Rumeur WrestleMania 36, AJ Styles face à The Undertaker.
Ben, moi, de ce que j'entends, c'est plus qu'une rumeur. Là. C'est le match qui va arriver. C'est juste pas encore annoncé officiellement.
Mais est-ce que t'es down de voir ce match-là? Est-ce qu'on est down de voir Undertaker arriver à 154 ans dans le ring encore une fois?
J'aime mieux le voir contre AJ Styles avec quelqu'un qui va être capable de travailler. AJ va être capable de... si Undertaker...
Il va le carry.
Il va le carry, exactement. Mais j'aime mieux voir AJ Styles que quelqu'un qui n'est pas capable de le carry comme Goldberg. Tu comprends?
Est-ce qu'on le fait perdre? C'est tout... Parce que l'affaire, c'est quand Undertaker s'en va dans le ring à WrestleMania, c'est pas juste un match. Là. Tu peux pas faire perdre Undertaker encore à WrestleMania.
Non, mais tu le fais gagner, Undertaker.
Face à AJ Styles?
Ouais. AJ Styles va avoir fait le combat au complet. Il va avoir bien paru dans le combat. Puis une défaite contre l'Undertaker, c'est pas vraiment... Ta carrière est pas affectée parce que tu perds contre l'Undertaker, même si, comme tu dis, il y a 104 ans.
Moi, mais je suis pour Undertaker.
Ben oui.
Mais je veux plus le voir dans le ring.
Ben...
Pas dans un single match. Parce que tu sais, quand il était revenu puis il avait fait le tag team avec Roman à Extreme Rules, je pense.
Ouais.
Il avait tellement bien paru parce qu'il était juste venu pour le hot tag.
Oui,
il a fait ses moves, boum, 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 c'est fini, ben on s'en va.
Mais moi, je veux plus le voir contre des lutteurs qui sont capables de prendre le match sur leurs épaules.
Ouais.
J'ai hâte de voir cette dynamique-là avec AJ Styles. Mais je vais prendre deux secondes. Là, les autres matchs là, de WrestleMania, parce que là, il y en a deux qui sont confirmés. Brock contre Drew McIntyre. Ouais. Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre d'NXT. J'adore l'idée, d'ailleurs. Là. Je sais que, bon, on l'a vu venir, mais j'adore l'idée d'envoyer la gagnante du Rumble contre la championne de NXT parce que ça aide aussi ça aide NXT qui est à USA Network. Mais les autres matchs là, potentiel évidemment parce qu'il n'y a rien d'annoncé. Bray Wyatt, le Fiend qui va défendre son titre universel contre Roman Reigns. C'est là que ça s'en va là. Roman va gagner l'Elimination Chamber puis c'est là qu'on s'en va.
Il est contre qui dans les on va parler tantôt
je sais
là.
Pas, ils ont
il
pas annoncé
Robert
encore.
Roode. Ben sur la pancarte, il y avait Robert Roode puis il y avait
C'est pas les bons ça. C'est pas les bons finalement, ça il y en a qui vont en faire partie, on avait parlé la semaine dernière, mais finalement, c'est pas les six finaux. Okay. Là, les choix sont pas encore finis. Sont pas encore décidés. On a Becky Lynch contre Shayna Baszler. C'est là que ça s'en va.
Ouais, si c'est si elle gagne le Elimination Chamber face à Liv Morgan.
Oui, puis...
Non, mais moi, je suis tanné, OK? Comme, guys, on sait que c'est ça. Donne-nous-le.
Ben oui!
Mais elle est pas dans Elimination Chamber avec Liv Morgan qui va peut-être blesser quelqu'un.
Tant qu'à ça, là, j'aurais gardé l'angle de Vampire après l'Elimination Chamber.
Ça m'aurait même pas dérangé, ça.
Parce que là, au moins...
On sait c'est qui.
Parce que là, je veux dire, c'est pas Ruby... C'est pas Sarah Logan.
Sarah Logan.
J'ai rien, là. Je la connais, Sarah. Elle est super fine. C'est une bonne lutteuse. Mais ils la poussent pas. Ils font rien avec. C'est pas elle qui va gagner.
Pat, Sarah Logan.
C'est vraiment Natalia qui va gagner. Ben non.
Bêche comme le mur qu'on a en avant de nous.
Puis c'est sûr Ruby Riott. Puis Ruby, c'est pas parce qu'elle est mauvaise non plus, mais elle vient de revenir.
Ruby, je la verrais top 2 à la
fin. Oui, mais en même temps, t'as Asuka. Fait, d'après moi, ça va être Asuka top 2. Ouais. Tu sais, tu comprends? En tout cas.
C'est inutile.
C'est ça. Bayley contre Naomi. Ça s'enligne pour ça.
Ben, prends pas mon argent, là.
Ou peut-être un match à plus d'une fille.
Moi, je pense que ça va être genre toutes les filles dans,
de SmackDown.
Les cinq filles de SmackDown avec Dana White Brooke, là. hey, man. La division féminine de SmackDown,
non,
là.
Non,
je sais. Est pire que celle de AEW.
Edge contre Randy Orton.
Ça va être bon. Ça.
Kevin Owens contre Seth Rollins.
Ben, moi, je pense que c'est un tag, là, mais tu me crois pas, fait que.
Ensuite, Braun Strowman pour le champion intercontinental, Braun Strowman. Moi, je suis persuadé que ça va être un genre de match à plusieurs. Là. Ça va être le match à plusieurs. Ouais. Titre intercontinental. Ouais. Mettons un match d'échelle avec des gars comme Kofi, Nakamura, Cesaro, Ziggler, Miz, Bobby Roode. Mais ouais, c'est pas grave, ça. Il peut se battre.
Mais non,
pour
il va défendre son titre de tag team champion face aux soit Usos ou Revival.
Bon, OK, t'as peut-être raison. Autre Kofi, t'as Miz, t'as Morrison. Oh, ouais. Tous des gars qui peuvent travailler un match d'échelle. Puis en plus, la beauté là-dedans, c'est que tu peux faire perdre Braun Strowman sans avoir les épaules rivées au tapis. Andrade, Angel Garza, Rey Mysterio, Humberto Carrillo. Il y a quelque chose.
Ouais.
Je sais pas, ça va être autour du titre des États-Unis, un tag team, mais il y a quelque chose avec ces quatre-là. Là. Puis ça, là, prenez mon argent. Là.
Ça,
c'est un match que j'aimerais voir. Évidemment, Undertaker et Jay Styles, John Cena contre Elias.
Hey man, si c'est ça, Pat,
ouais.
Pat Laprade.
Ouais.
Si il ramène John Cena, Mr. Bumblebee,
ouais.
Mr. Fast and Furious 9, le frère de Dominique. Là.
Il y a deux WrestleMania où Cena a eu quelque chose avec Elias. Là.
Pour se battre contre Elias, qui n'est pas capable d'attacher son soulier sans avoir l'aide de quelqu'un. Oh, hell no, man.
Puis on s'entend qu'Elias, il est à une promo près de tourner heel ou de tourner face. Il est toujours une promo près d'être
Elias
dans le bas ou de l'autre.
Elias, là, OK. On veut juste qu'il joue la guitare. OK? Il a même plus besoin de s'entraîner. On veut juste qu'il joue et puis quelqu'un va l'interrompre. Il va donner un coup de guitare, c'est fini. Genre, on a pas. C'est un des pires lutteurs de la compagnie, là.
Il y a aussi les deux batailles royales, Andre the Giant puis chez les filles.
C'est un des pires. Elias, là.
Okay? Viens-en, là.
Elias puis Riddick Moss, là.
Oui.
Pat, tu verrais les deux, là, tu leur mettrais un chapeau sur la tête, un masque, là, tu saurais pas c'est qui?
Ben oui, Elias est beaucoup plus poilu.
OK, next.
Riddick Moss se trime. Mais on est déjà rendu à 13 matchs. Et j'ai pas un championnat par équipe là, encore là-dedans, là, tu comprends? Ça va être encore une grosse carte. Mais il y a des bonnes choses là-dedans, il y en a des moins bonnes.
Ben, en parlant de bonnes choses et de moins bonnes choses, pour le Hall of Fame,
ouais.
Bill of Twins, Jushin Thunder Liger et probablement David Boy Smith. Là, je sais que pas toi, t'as des insiders.
Ben, il y a aussi JBL aussi, là.
Et JBL.
Et ça, c'est dans les potentiels. Et là, je me fais souvent poser la question, là, mais c'est qui le comité qui vote, qui
ben,
décide
Vince.
De ça? Il n'y a pas de comité, guys, là. Oubliez le comité, il n'y a pas, c'est Vince. On y propose des noms, il propose des noms,
oui.
Puis lui, en dernier, c'est lui qui décide. Lui,
quand,
oui, lui, non.
C'est
là.
Comme qu'on dit, comment un joueur peut jouer à la classique KR?
Ben, c'est parce que
ben, c'est moi qui
c'est
décide.
Toi qui décide.
Ben,
ouais, tu vas prendre des suggestions.
Ben oui, je vais écouter, mais à la fin de la journée,
la fin,
c'est moi
décides.
Qui fais le jersey, là.
Ben oui, exact.
Même
exact.
Chose pour le Hall of Fame.
C'est la même chose pour le Hall of Fame. Il n'y a rien de très scientifique bon. Là-dedans. Davey Boy Smith, j'ai parlé à son fils, Harry, à Davey Jr. Et, bon, évidemment, Il peut pas confirmer, il peut pas nier, parce que bon, tant que la WWE l'annonce pas, tu sais comment c'est, mm-hmm. jamais officiel, puis comme c'est Vince qui décide, il peut aussi bien se lever demain matin puis changer d'idée, mais c'est sûr qu'il aimerait vraiment, vraiment ça, ça fait longtemps que la famille pousse pour que Davey Boy soit reconnu, parce que bon, malgré le fait que ça soit pas un vrai comité, ça soit pas aussi prestigieux que d'autres temples à renommée.
Non, dis-le ton autre temple.
Ah non, mais c'est le temple à renommée du Wrestling Observer qui est le plus crédible. Dis-le. Mais ce que je veux dire, c'est pas aussi crédible que Cooperstown ou le temple à renommée du hockey. Tu comprends? Là, ils ont vraiment des gens qui votent puis qui se penchent sur les candidats. Mais c'est quand même pour les gars, c'est quand même une belle reconnaissance. Puis c'est un gros party. Tu sais, donc.
En écoutant les podcasts, je me rends compte, tu sais, de mettons, Busted Open, Eric Bischoff, tout le monde. Je me rends compte que c'est vraiment important pour les boys de rentrer dans le top lot.
Oui, parce que c'est le seul que. La seule chose que j'aime du Temple de la Renommée, c'est qu'il y a une cérémonie.
Ouais.
Il y a une vraie cérémonie. Il y a un présentateur. Il y a un speech qui leur est permis. Bon, tu sais, il y a une bague. Il y a quelque chose.
Ils ont leur temps.
C'est ça. Puis ça, je pense que c'est ça qui est pris ici, surtout.
Maintenant, est-ce qu'on va parler du fait que les Bella Twins sont dans le Hall of Fame?
Ben, les Bella Twins.
Ils ont quel âge? Ils ont 12 ans.
Les Bella Twins, ben, comment ça? Les Bella Twins, ils ont les deux plus de 40 ans.
Oui, mais.
À la lutte, t'as pas le choix. Même le Wrestling Observer Newsletter, là, à partir de 35 ans, tu peux être intronisé dans le Temple de la Renommée. Il y a pas de retraite. L'Undertaker serait dans aucun Temple de la Renommée,
mettons les Bella Twins, là, OK?
Oui.
C'est pas first ballot. C'est pas second ballot.
Ben non, mais là, à partir du moment que Coco Beware dans le Hall of Fame, t'oublies tes ballots, là.
Oui, mais je comprends pas les Bella Twins en 2020. Si tu me dis dans 5 ans... Je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont fait d'important, les Bella Twins, à part Total Bellas?
Mais pourquoi t'essayes d'avoir du sens? Pourquoi t'essayes de faire du sens, cette décision-là? C'est Vince qui décide. Ça, il prenait des filles ou une fille, puis il disait, hey, let's go, les Bella. Les deux le trompent peut-être plus. Voilà.
Selon le Wrestling Observer, Cobb serait signé seulement pour le programme avec Moxley. Là, je parle de Jeff Cobb, qu'on a vu à AEW Dynamite la semaine dernière. AEW a offert un deal à Cobb, mais Cobb veut pouvoir continuer à faire New Japan. Le deal de Cobb est expiré depuis le 1er janvier.
Écoute, pour vrai, s'il arrive à le signer à temps plein, c'est une grosse signature. Jeff Cobb, il est hyper talentueux. Puis bon, y en ont des contrats qui permettent à leur gars de lutter New Japan. Donc, tu sais, c'est pas impossible.
Mais j'aime qu'il fight pour pouvoir lutter encore à New Japan.
D'ailleurs, oui, absolument. Puis d'ailleurs, le monde de AEW peut faire de la lutte indépendante, aller sur le circuit indépendant maintenant. Il faut de un qu'ils le veulent. Et de deux, il faut que ce soit approuvé par AEW.
C'est cool.
Donc, mais c'est l'opportunité est là s'il y en a qui veulent.
C'est
qui
cool
veulent le faire.
Jusqu'à ce qu'il y en a un qui se blesse.
Ben,
Donc là, mettons, un se blesse, circuit indépendant. Là.
Ouais.
Tu fais quoi? Qui paye les assurances? Qui fait ci?
Je comprends.
C'est ça.
Je comprends. Mais il faut quand même que ce soit approuvé. Puis ils ont une période. Là. Ils peuvent pas, mettons, se faire signer. Ils peuvent pas, mettons, faire prendre un match, je pense, c'est 2 ou 3 semaines avant un gros show. Tu sais, il y a quand même certaines règles que l'office va respecter à ce niveau-là.
J'ai écouté Ruthless.
Ruthless Aggression. De la misère, ce mot-là. Il y a trop de R.
Toi, tu vas dire le nom du show-là. J'ai écouté ce show-là.
Ruthless Aggression. Bon. Comme dirait Vince.
Moi?
Ah.
OK.
Ah, j'en ai à dire.
Bon. Je sais pas par où le prendre. Parce que, d'un côté, j'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté les deux premiers épisodes.
Ouais, moi
deuxième
aussi.
Épisode avec John Cena, c'est un des bons épisodes parce que je trouve que c'est une belle rétrospective sur John Cena qu'on n'avait pas encore vu. T'sais, on a vu beaucoup de documentaires de John Cena, mais on n'avait pas encore vu... Il n'avait pas encore sauté dans ça, là, dans cette partie-là de sa carrière.
Ouais, on va y revenir. Hein.
L'épisode 1, c'est Donald Trump qui a fait la série documentaire. Là. Il y a 3 fake news sur 5.
Ça n'a aucun bon sens.
Je comprenais pas. J'étais assis, mais je pense pas que c'était arrivé comme ça. Je suis allé regarder. Je pense pas que Vince a décidé de changer le nom de WWF.
OK. Hey, ça, pour vrai, là, tu me passes sur quelque chose. Parce que pour vrai, dans le documentaire, ils disent là, Steve Austin est parti parce qu'il voulait pas perdre contre Brock Lesnar.
Ouais.
Il a quitté la compagnie. Et là, vu que la compagnie avait plus Steve Austin, puis la compagnie avait plus The Rock, parce que The Rock faisait, tu sais, commençait à faire plus de films et tout ça. Ben là, il leur fallait genre, tu sais, il leur fallait de trouver une façon de se motiver, de retweaker la compagnie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont changé de nom. Fait « Get the F out », qui était le slogan quand ils ont changé de nom, est arrivé. « Hey, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. » C'est vous quoi, connaissez pas votre histoire?
Wild Forest Animal. C'est quoi?
C'est World Wide Fund. C'est les pandas.
Fait.
OK. Non, mais attends, ils ont changé de nom plus que ça. On n'ira même pas là tout de suite. Ils ont changé de nom au mois de mai. Austin est parti. L'affaire d'Austin Plessner, c'est arrivé au mois de juin. Il était même pas parti, Austin, encore, quand ils ont changé de nom. Ça, c'est de base. Mais l'histoire, c'est que ça faisait des années et des années qu'il y avait eu des mises en demeure de la part de la World Wide Fund. Là, vous savez, le groupe activiste pour la protection des animaux. Ils ont un panda comme signe, comme logo. Et eux aussi utilisent les lettres WWF. Le problème avec ça, c'est que oui, la compagnie, elle existe depuis plus longtemps que les pandas. Mais c'est parce que la compagnie s'appelait pas WWF avant. Exact. Elle s'appelait WWWF. C'était la World Wide Wrestling Federation. Et quand elle a changé de nom en 79 pour la WWF, les pandas existaient déjà. Et là, les pandas les a... Je sais que les pandas existent depuis plus longtemps, de 79, c'est pas ça que je veux dire.
Aggression, là.
Mais la compagnie de pandas, là, elle existait déjà. Et là, ça a fait en sorte qu'ils les ont poursuivis. Et ça a duré des années parce que Vince, là, il a été négligent là-dessus. Il a fait comme, je m'en fous d'eux autres. À un moment donné, ils n'ont plus eu le choix. Puis, ben, ce jour-là est arrivé. Puis là, ben, il n'y avait pas le choix de changer de nom. Ça n'a rien à voir parce qu'ils voulaient retweaker la compagnie puis leur donner un petit boost. Par contre, leur campagne Get the F Out, c'était du génie, ça.
Oui, c'était
la plus belle façon de changer de nom.
Changer le branding.
Et puis, écoute, il y a plein de t-shirts après ça sur des t-shirts de compagnies indépendantes où ce que tu vois un gars donner un coup de chaise à un panda. Ouais. Moi, c'est le t-shirt qui me fait beaucoup. J'ai rien contre les pandas. Je donnerai jamais un coup de chaise à un panda avant que je reçoive des emails de haine. Mais pour vrai, c'est jamais arrivé pour les raisons qui t'explique dans le documentaire, Je comprends pas. Je comprends pas comment en 2020, tu fais une recherche Google pis t'as l'information.
Ben, t'appelles Siri. Siri, qu'est-ce qui est arrivé avec WWF? Siri va te le dire.
Ben oui.
Mais mon
Siri
point.
Siri devait faire des documentaires pour le network.
Mais mon point, c'est que c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas eu un documentaire aussi biaisé de la WWF. Tu sais, mettons les 24, les Day of, les rétrospectives sur certains lutteurs. D'habitude, tu sais, on sent un peu qu'on voit de l'autre côté du curtain, là, du rideau, tu sais, puis on sent cool. Là, ça, j'ai mangé du popcorn en l'écoutant parce que j'étais comme, quelle menterie ils vont nous raconter? Quand ils ont montré le match de Buff Bagwell face à Booker T, là.
Ouais.
J'ai dit, fait que là, je suis en train de blâmer ça sur Buff Bagwell et Booker T.
Mais ça, c'est à moitié vrai. Dans le sens
je
où.
Je sais, mais pas comment ils l'ont montré.
Non, ce qu'ils n'ont pas montré, en fait, c'est que Vince. OK, puis ce qu'ils n'ont pas dit non plus, là, je sais pas si tu sais ça, toi. Quand Vince a acheté la WCW, là, tu sais, c'était quoi son idée de base? L'idée principale, c'était de garder Nitro. Nitro était pour être les lundis, SmackDown les jeudis. Il n'y avait plus le Raw, là. Il gardait deux compagnies complètement séparées. La WCW les lundis avec Nitro, la WWF les jeudis avec SmackDown. Puis il était pour vraiment faire quelque chose de cool avec ça. Ce qui l'a turné off, c'est quand, à un moment donné, il a fait une promo dans le ring, Vince, puis il a commencé à dropper la journée qu'il a achetée, là, le 26 mars 2001, quand, je peux pas croire, je me souviens de cette date-là de même, c'est vrai, Ben Cassette me dit toujours, toi pis tes dates, astic, tu peux me nommer des dates tout le temps, je viens de le faire, mais bref, il est dans le ring, puis il nomme des lutteurs de la WCW, puis il a pas aimé la réaction des gens face à ces noms-là.
Il s'attendait à quoi?
Non. Je me rappelle plus dans quel marché il était. Puis là, j'ai un blanc là-dessus. Mais il était dans un marché où la WCW roulait pas ou roulait presque pas.
Fait
que c'est sûr qu'il n'était pas pour avoir des réactions de l'enfer. Fait que là, il s'est dit, ah ouais, le produit est peut-être pas aussi hot que je le pense. Ouais. Fait qu'on n'ira pas là. Puis là, ensuite, est arrivé le match de Buff Bagwell puis de Booker T. T'es Buff Bagwell puis Booker T, à l'image,
Booker T était correct. Five-time champ. Buff Bagwell.
Voyons!
Ça, c'est pas le gars qui avait mis sa mère dans un forklift.
Oui, t'avais un Judy on the pole match.
Buff Bagwell, c'est Elias!
Mais l'affaire, puis c'est pour ça qu'on parlait d'Invasion tantôt 2001, la ce que Vince a manqué, là, la grosse erreur de Vince là-dedans, c'est qu'il n'a pas voulu racheter les contrats qui appartenaient à Turner. Okay? Les gros contrats, les Flair, les NWO, t'avais Brett là-dedans, t'avais Goldberg, NWO, Nash, Hall, Hogan, t'avais Goldberg, t'avais Sting. Il n'a pas voulu racheter ça parce qu'il disait ça vaut des millions, c'est trop cher. Ouais. Pourtant, là, ça aurait... Honnêtement, puis on va en parler avec Invasion, puis je vais terminer là-dessus. Envision, la popularité de ce pay-per-view-là avec le peu de talent de c'est WCW qu'on avait sur ce show-là, si tu fais une vraie invasion avec tout ce monde-là qui arrive, toutes les grosses stars de la WCW, premièrement, là, ça change le landscape. Deuxièmement, ce pay-per-view-là, juste avec le pay-per-view, ça aurait quasiment remboursé tous les gros salaires qu'il aurait payé. Honnêtement, ça a été une erreur de jugement de la part de Vince. C'est ça. Puis là, il nous raconte l'histoire à sa façon.
Mais l'épisode 2 est bon. L'épisode 2 est excellent.
L'épisode 2, c'est sur John Cena. Ouais. John Cena, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand il dit j'ai fail, tu sais, j'ai pas réussi quand on m'a fait débuter, la façon qu'il en parle, puis sur je veux dire, c'est sur plusieurs minutes, t'as l'impression qu'il a lutté pendant 2 ans après, tu sais, il a commencé contre Kurt Angle.
Ouais, ouais.
Puis après ça, t'as l'impression qu'il a lutté pendant 1 an ou 2, puis là, il dit, tu sais, j'ai pas réussi, I failed. Il a lutté pendant même 4 mois, Kevin.
Mais
entre le moment où il devient, entre le moment où il lutte contre Hurt, puis il a son premier rap à Halloween, le jour de l'Halloween en 2002, il s'est écoulé 4 mois. Peux pas dire que t'as fail en 4 mois. Ouais, lui, c'est à peine une période de probation dans un nouvel job.
Non, mais lui,
je sais comment.
Il s'est senti comme ça, puis moi. Je vais te dire la vérité. Quand John Cena, il était en petite bobette serrée, avec sa petite coupe de cheveux, le petit tape sur le poignet, j'étais comme...
Mais, je comprends, mais ça a duré 4 mois.
Oui,
c'est pas lui, qui a fait autant que le créatif.
Je comprends, mais lui, c'est comme ça qu'il se sent. Il va pas...
Ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'ils ont quand même mentionné que il était censé se faire congédier, il s'est pas fait congédier, et que c'est Stephanie McMahon qui l'a sauvé. Puis ça, c'est vrai, mais ce qu'ils ont pas dit... Sais-tu qui c'est qui poussait à l'interne pour qu'il soit dehors? Nope. C'était Triple H.
Ah ouais?
Triple H n'aimait pas John Cena. Il trouvait que la gimmick était pas bonne, qu'il y avait encore des croûtes à manger. Puis lui suggérait très fort à Vince qu'il le laisse aller. Puis c'est là-dessus que Vince en allait. Je veux dire que Stéphanie le voit faire son rap dans l'autobus. Et là, ensuite, elle a dit non, il y a quelque chose à faire avec ça.
Un moment dans la carrière de John Cena a tout changé.
C'est une question de timing. Puis ça a été là. J'étais là. J'étais là, au Madison Square Garden, WrestleMania 20, quand Cena gagne son premier titre, quand il bat Big Show. J'avais d'ailleurs acheté, mes amis me l'ont souvent reproché et ont souvent ri de moi, j'avais acheté la petite chaîne avec le cadenas. Moi, j'étais un Word Life guy, là.
J'ai besoin d'une photo de Pat Laprade avec la chaîne de
John Cena. Elle a cassé, je l'ai plus.
Je vais t'avouer, Pat, qui est là pendant qu'on fait les...
Je sais pas le nombre de t-shirts de John Cena j'ai eu, en tout cas. Oh, j'étais un gros fan. Quand c'était pas populaire d'être un fan de Cena, moi, j'étais un fan de Cena.
Tu vois, moi aussi, je suis un fan de Cena au point que j'avais acheté la chaîne qui spin.
Ah oui!
J'avais acheté la chaîne qui spin et au collège de Tarn, il y avait les journées couleurs.
Oui.
Et à un moment, parce qu'on avait un uniforme au collège.
Oui.
Et à un moment donné, je suis arrivé avec la chaîne qui spin.
Wow!
Puis tu sais, c'est fait en place.
Ben oui, c'était cheap. Ben
et,
oui.
Madame, je sais pas si c'est Madame Feliciello ou je m'en rappelle plus, ou Madame Allard m'avait dit enlève ça de ton cou.
Wow!
Elle a dit enlève ça de ton cou. Je l'ai plus jamais remis. Je sais pas si je l'ai encore, mais ça, c'est un de mes beaux souvenirs. OK, so Cathy Kelly quitte NXT. C'est sa décision. Elle a passé 4 ans à NXT. Elle semble avoir fait le tour dans les paramètres de la WWE. Cathy Kelly, moi, je la vois à ESPN.
Ah, ben oui. Non, elle était...
En fait, dès que tu passes dans le tordeur WWE, t'es prête pour
Cathy
ESPN.
Cathy Kelly, c'était pas, si je me trompe pas, c'était pas une fille que Maria Menounos avait amenée.
Ah, oh, non.
Il me semble que c'était elle. Elle a été, pendant un certain temps, la blonde de Finn Balor.
Mais
c'est ça.
Moi, je trouve qu'elle est super bonne. Puis j'aime le write-off qu'ils ont fait à NXT.
J'aimais le clin d'œil d'Adam Cole quand il a dit you can leave now.
Fait que elle ne trouvera pas de problème pour se trouver un job. Selon Sean Ross Sapp de Fightful, Vince serait de moins en moins à Raw et SmackDown.
Ah ben oui, mais c'est sûr, la XFL est commencée. C'est ce qu'on s'attendait.
J'ai écouté un match de la deuxième semaine, un bout de match de la deuxième semaine. C'est encore bon.
Oui, good. Mais les codes d'écoute ont baissé de 34%.
Mais attendance a monté.
Ce qui est moins pire qu'en 2001.
Ouais.
Mais ils ont quand même donné les codes d'écoute de 2.4 ouais. dans certains matchs.
Les attendance ont monté de 8%.
Il y avait beaucoup de compétition en fin de semaine. Il y avait du gros NASCAR. Il y avait le
All-Star Game.
Il y avait l'All-Star Game de la NBA. Donc,
mais tu sais, j'avais vu une affaire que XFL à Saint-Louis était en même temps qu'un match des Blues.
Ouais.
Et la XFL a fait le double.
Ah, ben écoute, ça, je suis pas surpris. Là.
Ben, je suis pas surpris, mais c'est quand même...
C'est quand même les champions de la Coupe Stanley. Ouais. Là.
Oh, ouais. Quand même la nouvelle maison de Marco Scandella.
Ah, absolument. Beau turnover, ça.
Ben oui, le gars voulait pas signer.
On donne un choix de 4, puis on reçoit un choix de 2. C'est quand même...
Moi, là, OK, je sais qu'on est dans un podcast de lutte, là.
Ouais.
Mais Bergevin, là.
Ouais.
Notre disrespect, là.
Ouais.
Il fait une bonne job. Je pas. Pat, tu me connais. Je pensais jamais dire ça. C'est pas la faute de Marc Bergevin. People, il faut arrêter de mettre ça sur le dos de Bergevin. Parce que le petit patiné, il fait des trades à gauche, à droite.
Moi je vais revenir à la lutte en disant ceci. S'il y avait une catégorie pire Booker, Bergevin gagnerait. Donc.
Boom!
Pire Booker?
C'est une référence. DG Booker. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le crayon dans les mains. C'était une référence.
Will Ospreay.
Pas droit, faut que je t'explique la référence.
Mais
tout
non,
le monde
mais
va avoir
je trouve pas que c'est le pire. Je trouve qu'il fait des bons échanges. Le gars il donne.
Il échange Marco Scandella pour un choix de deuxième ronde. Il a pas révolu. Il a pas inventé le bouton
mais non,
à quatre
mais
roues,
les autres
là.
Échanges, il a fait quoi avec Max Domi? Il a fait quoi?
Max Domi qui a une super bonne
saison.
Ben oui,
il joue avec qui? Il joue avec Jordan Will puis Nate Thompson.
Mais c'est qui, ça, qui décide d'avoir des joueurs de même dans l'équipe?
C'est qui les met sur le PowerPoint? Avec... C'est pas Bergevin, c'est Claude Julien?
Hey.
Ouh!
Will Ospreay, Buzz
Zach. On partira jamais un podcast de hockey, je te le dis d'avance, man.
C'est sûr qu'on se bat. Will Ospreay, Zach Sabre Jr. et devient le nouveau British Heavyweight. C'est un titre quand même important à la New Japan Pro Wrestling. Zach prépare un programme avec John Moxley pour le US Championship. Donc, c'est une transition.
Will Ospreay qui s'en va dans la catégorie des poids lourds avec
ça.
New Japan.
C'est cette transition-là qui se fait. Ils l'ont fait avec Zack Sabre Jr. il y a quelques années. Ouais. Là, ils le font avec Will Ospreay. Ça fait 2 ans que je dis ça, mais ça ne m'étonnerait pas que Will Ospreay gagne le G1 cette année.
Ben écoute, c'est très possible. Moi, tu vois, je le disais la semaine dernière, j'ai aidé Dave Meltzer avec les prix de l'année.
Tu as écouté les combats de Kentamiki Yogi, là?
C'était ton devoir à toi, pas le mien.
OK.
De quoi tu jases, tu l'as pas fait?
Mais non, mais je t'ai dit, j'ai écouté 2 matchs.
Ah,
je vais en écouter plus.
Bon.
Là.
Mais ce que j'allais dire, c'est Will Ospreay reçoit beaucoup, beaucoup de votes pour la catégorie, évidemment, des meilleurs européens, meilleurs non-heavyweight, meilleurs high flyer, également pour meilleurs lutteurs.
C'est ça.
Et il y a 2 catégories de meilleurs lutteurs dans les prix. Là, il y a des définitions pour tout. Puis il reçoit des prix pour les... Il reçoit beaucoup de votes pour les deux. Ça va être une grosse, grosse année.
Ça va être qui le meilleur lutteur? À part
ben,
Will Ospreay.
Okada.
Non, pas Okada. Tu sais ben pourquoi c'est pas Okada? Parce que Will Ospreay a fait G1.
Oui.
Junior Tournament.
Oui.
Tag League. Oui. Il a fait tout ça.
Les deux ont eu à peu près le même nombre de matchs de la même qualité. Là. Des five, mettons, là, on prend les 5-star matchs comme référence. Ouh. Les deux en ont eu à peu près le même. Okada, il y a eu une grosse année. Là. Tu
Okada
peux pas
a
dire,
eu une grosse année,
tu
mais
peux
Will
pas
Ospreay,
dire qu'Okada n'a pas eu une grosse année.
Will Ospreay a eu la meilleure année de l'histoire pour un lutteur indépendant
compagnie. Je comprends, mais Okada gagnerait certains prix là-dedans que je serais pas nécessairement choqué. C'est pas
non.
Comme si tu gagnais donnais le prix à Baron Corbin.
Ouais, Elias.
Où Elias?
Le prochain takeover de NXT UK sera à Dublin.
Oui.
Le 26 avril prochain.
Première fois qu'ils vont en Irlande.
Ouais. On le dit. Hein? C'est une nouvelle. Aucune opinion. Double or
non,
Nothing
non,
sera...
Ça va être cool. Je suis content qu'ils reviennent un dimanche. Ça va être la première fois que NXT UK va être aussi un dimanche.
OK. Donc, Double or Nothing sera le 23 mai à Las Vegas.
C'est pas des vieilles nouvelles, ça. On sait pas ça depuis longtemps. Il me semble que la
non, dernière... parce que non parce
à Full Gear en novembre quand j'y étais, il me semble qu'on savait déjà que Double or Nothing c'était au mois de mai.
Oui, mais il avait pas annoncé la date, puis il avait pas annoncé qu'elle allait être là aussi le mercredi.
Mais ça a toujours été la fin de semaine de la.
Je sais, mais là il annonce qu'il va être là le mercredi, fait qu'ils vont faire, ils vont double down le MGM.
Ouais, le samedi
fait
et
là,
le mercredi.
Fait que là ils vont essayer de remplir samedi et mercredi le MGM Grand.
Si j'étais pas à Vegas un mois avant, je me serais booké une semaine de vacances pour faire les deux.
Tu peux pas passer une semaine à Vegas, Pat.
Je passe une semaine à Vegas au mois d'avril.
Il y a juste Pat Laprade qui passe
j'arrive,
une semaine.
J'arrive le samedi.
Les gens, ils passent 3 jours, ils en ont assez.
Je reviens le vendredi.
Mais tu penses que c'est une bonne idée de rester là, tu sais, l'autre date, tu sais? Hey, c'est quand même 14 000 fois 2, là.
Moi, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Qui n'essaie rien n'a rien dans la vie.
Bon, Cette nouvelle-là, là...
Hein? C'est-tu bas de la belle philosophie à Saint-Saëns?
La prochaine nouvelle, j'étais saisi.
T'étais saisi, Shelton Benjamin?
Parce que moi, j'écoute tous les podcasts.
Oui.
Puis, dernier podcast, on parlait des gens qui font rien.
Oui.
Qui restent chez eux.
Oui.
Puis qui prennent la décision. Shelton Benjamin signe un contrat de plusieurs années avec la WWE.
Oui. Et dans la même semaine...
Il chiale.
Il fait une entrevue avec Lillian Garcia et il chiale quand il est pas assez souvent utilisé.
Le gars a combattu 3 fois dans l'année, puis il s'en va signer un contrat multi-année.
Ben pour... mais si l'argent est là.
Oui, mais Pat, même si l'argent est là, en tout cas, chacun a sa situation, mais.
Je comprends.
Shelton Benjamin.
On est pas tous riches comme toi.
Mais je suis pas riche, point. Mais.
c'est pas parce que c'est le temps des impôts qu'il faut absolument que tu fasses un statement que
les
t'es pas
impôts
riche.
Sont pas à fond pour moi. Mais Shelton Benjamin,
tu veux ce qu'on appelle IRS?
Ah, yo, ce gars-là est whack. Mais Shelton Benjamin, ok, dans NWA Power là,
ouais,
il serait top guy.
Oui, mais il ferait pas la moitié de l'argent qu'il ferait à WWE.
Crockett Cup sera le 19 avril prochain au Gateway Center Arena en Georgie. Ça, c'est un arena que pour le basketball, il y a eu 3 500 personnes. Pour un concert, il y a eu 5000 personnes. Je trouve que c'est beaucoup. Pour...
Ils font jamais ça.
C'est
et,
ça.
Et l'autre chose que je veux dire là-dessus, c'était vraiment cute quand tu m'as envoyé ton pacing original. T'as pas marqué Crockett, là, C-R-O-C-K-E-T-T. T'as marqué Croquette. Croquette. Comme j'ai eu faim. J'ai lu ça, puis j'ai eu une image de Croquette, là, avec... La vanille au milieu, là. Ouais.
Mais, en tout cas, je trouve pas que c'est une bonne idée d'aller dans un aussi gros arena. Je sais qu'ils vont se partnership avec ROH, puis qu'ils vont, tu sais, ils vont se partager les talents.
Non, je comprends, là, mais Ring of Honor tout seul attirait pas 3500. Fait que je pense pas que les deux combinés va ajouter tant que ça. Hey, dernière nouvelle, c'est moi qui veux la dire. Jordynne Grace a déclaré qu'elle aimerait peut-être ça, que les deux titres soient jumelés. C'est-à-dire le titre féminin d'Impact et le titre mondial d'Impact. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on veut un titre gars-fille? Ça n'a pas d'importance.
Ben non.
Non,
ça,
pourquoi?
Ça te permet d'avoir deux top guys, deux top girls, deux top... Ça permet d'avoir deux personnes... Le titre le plus important à WWE, c'était quoi l'année passée? C'était le titre de Becky Lynch.
Oui.
Mais ça nous permettait d'avoir Brock Lesnar qui était de côté aussi puis qui avait un autre titre ou un autre match qui avait de la valeur. Là, t'as l'opportunité d'en avoir deux. En ayant juste un... Moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui vont rester dans le mid-card et qu'il n'y a rien qui va se passer là.
Tu peux avoir une belle secondaire sans nécessairement que ce soit un titre féminin. Pourquoi? En fait, ma question, c'est est-ce que Impact, parce que c'est Impact qui semble vouloir innover à ce niveau-là, est-ce qu'Impact devrait non-genrer les titres? T'as un champion ou un champion mondial,
ouais,
si tu veux. T'as un champion par équipe, t'as un champion ex-division. Et les gars et les filles sont mêlés là-dedans. Il n'y a plus de titre féminin parce que les filles peuvent lutter contre un gars puis gagner le titre mondial. Tessa Blanchard est la championne en ce moment.
Mais OK.
C'est ça ma question.
C'est le même débat que j'ai pour le hockey féminin. Okay?
Oui.
Puis je sais pas si ça va se tout croche, mais je vais le dire avec mon chest.
Oui. Tu vas le dire surtout avec ta bouche.
Mais aussi. Ouais. Faut arrêter de comparer le hockey féminin au hockey masculin. Arrêter de comparer la lutte masculine ou masculin, whatever, et la lutte féminine. Je sais que c'est deux sports différents, c'est deux...
C'est deux réalités parce qu'il y a un côté théâtre dans la lutte que
réalités.
Gars ou filles peuvent très bien accomplir.
Mais toi, tu verrais Tessa Blanchard face à Brock Lesnar demain matin?
Est-ce que c'est si plus pire, et ça se dit vraiment pas, est-ce que c'est vraiment pire que Rey Mysterio contre Brock Lesnar? Ça, c'est ma question.
Ouais, mais Rey Mysterio, il avait la possibilité de faire des moves que Tessa Blanchard peut pas faire. Là. Pas parce que c'est une fille, parce qu'elle a pas les qualités athlétiques, comme que Rey Mysterio fait des moves que Elias peut pas faire.
Au bout de la ligne,
quand tu mets... Pis c'est pas une question que les filles sont moins bonnes que les gars ou que les filles ou que les gars sont...
Est-ce que tu verrais Jungle Boy contre Brock Lesnar? Est-ce que tu verrais Orange Cassidy contre Brock Lesnar? Je comprends, mais...
C'est d'autres qualités athlétiques, comme qu'au hockey, les gars patinent plus vite que les filles, les gars sont plus robustes que les filles.
Ben, je comprends, mais dis-moi quelque chose qu'Orange Cassidy fait pis que Tessa Blanchard est pas capable de faire.
Ouais, mais Orange Cassidy, c'est un autre personnage.
Tessa
a peu affronté... OK, Tessa... OK, mettons Tessa contre Brock, je suis capable de le voir.
Puis on
Carmella contre Brock, là...
Moi, non, mais je comprends.
Mettons le 90% de la division féminine contre Brock Lesnar.
Ben oui, mais tu,
on fait quoi?
Tu l'envoies pas là.
Mais c'est ça, je te dis.
N'oublie pas de Brock. Brock, c'est un cas extrême. Il n'y a pas de Brock à Impact.
T'as 90% de ta division féminine qui verront jamais le top?
Ben, comme t'as... Oui, ben oui. Oui.
Parce que moi, je trouve que ça enlève une opportunité.
Présentement, oui, mais en même temps, Impact...
Je trouve que ça enlève une opportunité aux filles.
À Impact, là, on parle toujours d'Impact. C'est ouais. sûr, la WWE, c'est peut-être une autre histoire, mais à Impact, il y a des filles comme Havoc. Jessica Havoc, là.
Je sais, mais je trouve que ça enlève une opportunité aux filles. Je pense que d'avoir leur titre, leur affaire à eux, là,
ouais.
c'est correct. Puis c'est pas mal de dire la division féminine, la division masculine. C'est deux affaires
différentes. Là-dessus, je suis d'accord parce que, je sais, aux Olympiques, là, il y a quand même un 100 mètres masculin puis un 100 mètres féminin. Puis il y a un marathon masculin puis un marathon féminin, puis il y a personne qui chiale.
Mais
pour
non, puis si quelqu'un qui était une fille avant devient un gars ou vice-versa, c'est chill de les mettre dans la division qu'ils veulent être. Fait que t'es dans la division que t'es à l'aise d'être. Mais moi, je trouve que d'enlever un titre, de tout unifier, fait que t'enlèves la moitié des titres, t'enlèves la moitié d'opportunités, puis on n'aurait jamais eu Carmella, on n'aurait jamais eu...
Mais ce que tu as dit, par contre, j'ai des bémols par rapport à ça, parce qu'il y a quand même... je pense qu'il faudrait qu'il y ait des règles pour les personnes trans, parce que il y a quand même un héritage athlétique qui vient avec le sexe à la naissance, et c'est pas pour rien, par exemple, que les gars, le 100 mètres chez les gars, par exemple, aux Olympiques, est quand même une bonne seconde.
Moi, je parle à la lutte.
Plutôt...
Là.
Ah, là, tu parlais à la lutte.
Ouais, je parle juste à la lutte. Okay. Ouais, juste à la lutte.
Je pensais qu'on était revenu aux Olympiques.
Ouais,
c'est différent.
C'est compliqué,
là,
pour
vrai. J'ai
fait un topo là-dessus à Alt. Ouais. C'est un kid qui était une fille avant, qui est devenu qui était un garçon avant qui est devenu une fille.
Oui.
Puis il est comme undefeated à la lutte. Là. Ça, il gagne sur gagne, puis il y a des poursuites judiciaires. Puis c'est comme compliqué. Ouais, c'est compliqué. Là. C'est un kid.
Ah, la lutte amateur.
Ouais,
la lutte amateur. Okay.
Puis c'est un cas qui est extrêmement compliqué. Puis des gens comme Rosemé, Autumn Témorin, Judith Lucier, je pense que c'est des personnes assez clés pour parler de ça. Mais à la lutte, moi, j'ai aucun problème avec Nyla Rose. Là.
Ah, ben
Val Venus là, qui fait des tweets. Là. Puis je l'ai même pas mis dedans parce que je trouvais que ça valait même pas la peine d'en parler.
Mais parlons-en pas. Mais Tessa Blanchard, Sacrifice, on vient à Impact 2 secondes. Sacrifice, c'est ce samedi. Il me semble qu'il y a zéro buzz pour Sacrifice comparativement au buzz qu'il y avait en janvier pour le pay-per-view.
C'est qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 mois.
Ah, ouais.
C'est qu'elle s'est pas excusée.
Ah, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a
pas
de buzz.
Mais moi, je te dis que c'est pour ça, parce que si...
Mais non, regarde la carte. Regarde juste ça, c'est la carte de Sacrifice, là, la carte qui est confirmée.
Vas-y.
T'as Jordynne Grace qui défend son titre contre Jessica Havoc. Ça, ça va.
T'as bon match.
T'as Daga contre Jake Christ.
Bye.
T'as Rhino contre Moose.
Bye. Ah, ça va être bon, ça va être bon, ça.
Rhino contre Moose.
Non, mais ils ont un bon storytelling avec Moose depuis quelques semaines. Depuis quelques mois.
Et t'as Tessa contre Ace Austin, les deux titres. Et X-Division contre... C'est tout ce qui est annoncé. Comment tu vas avoir un buzz avec ces 4 matchs-là?
Moi,
je me demande s'ils mettront pas la belt, la ceinture X-Division sur Tessa, puis qu'ils essayeront pas de faire l'ultime championne là-dedans.
Fait qu'elle va être Tessa 2-belt?
Et après ça, tu l'envoies contre Jordynne Grace. C'est pas pour rien que Jordynne Grace parle qu'elle voudrait peut-être unifier les titres. Et là, tu l'as fait Tessa 3-belt. C'est une belle de plus que Becky Lynch. Moi, si je suis Impact, c'est le même que je pense. C'est à voir.
Moi, je suis pas dans avec ce booking-là. Là.
Mais c'est correct. Mais on a déjà établi dans les épisodes passés que tu savais pas booker. Fait que c'est correct.
L'interlude musical. Mais non, mais...
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Hey, NXT TakeOver Portland, quel bon show!
Selon Brian Alvarez, on demande aux lutteurs d'être plus agressifs et plus stiffs pour offrir une alternative à Raw et SmackDown.
Hey, moi, j'y vois d'un énoncé avec plein d'émotions. Puis toi, tu me lis une nouvelle.
Non, mais je le dis comme ça
si
parce que...
Comme si maire de Montréal,
ton ami, toutes mes posts.
Qui ne suit pas sur Instagram.
Oui, elle me suit sur Instagram. Elle like toutes mes posts.
Elle ne suivait pas le dimanche de l'affaire avec Laurent. J'ai checké.
Ouh!
Mais non, là, je te crois, là. Hey. Je te crois, mais elle ne suivait pas ce dimanche.
Elle me suivait, laisse-moi tranquille.
C'est drôle. Bref. Hey, oui.
Non, mais c'est ça.
Comment t'as aimé le show?
Ben, c'est pour ça que j'ai lu la nouvelle, parce que j'ai trouvé le show très stiff. J'ai trouvé le show très. C'est positif.
Oh,
c'est,
oui,
c'est...
exact.
J'ai adoré le show. Keith Lee qui bat Dominik Dijakovic. Moi, bon.
Oui, ça, c'est le match que tu m'as dit. Je veux pas le voir. Je l'ai déjà vu 2 fois, puis ça sera pas bon.
Yo,
ça, c'est le match que tu m'as... Bon. Ça, c'est ce que tu nous as dit.
J'avais pris des notes.
Oui.
Puis je veux être certain de dire ma pensée.
Vas-y, tu vas dire ta parole.
Je vais parler ma parole. J'ai mis 4.5 sur ce match-là. Le début de match était extrêmement clumsy.
Ah! Oh!
extrêmement clumsy.
C'était pénible, c'était, il y avait pas de fluidité, il y avait pas de transition fluide là, entre les moves, là, c'était compliqué, on trébuchait presque là, écoute, c'était puis, vraiment pénible.
J'ai quand même mis 4.5 parce que le match a pick up rapidement, puis
les moves étaient spectaculaires.
J'ai pas besoin de voir 150 high flying moves de ces deux gars-là. J'en ai besoin de 3 ou 4.
Ouais.
Le reste c'est des power moves. J'ai pas besoin de 1 million de flips. C'est pas Private Party. C'est des big boys qui font des flips. Ouais. Là, il y a plein de flips qu'on a oubliés parce qu'ils ont fait d'autres flips. Fait que ça sert plus à rien. Puis le match Psychology était bon. Fait que moi, j'ai mis 4.5 sur 5.
Moi, ce que j'ai pas aimé de ce match-là, c'est, ben, c'est sûr, le début. Là. Puis la fluidité, elle a pas été là du match au complet. Mais au début, c'était pire.
Ils sont
trop
gros pour faire des affaires de même. Là.
L'autre chose que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont manqué leur pic.
Qu'est-ce que tu veux dire?
À un moment donné, là, j'essaie de me rappeler de la séquence exacte, mais il y a eu un pin, il y a eu une grosse séquence, il y a eu un powerbomb de Djakovic sur Lee, puis il y a eu un pin, et la foule, là, était prête. Là. La foule, la réaction sur ce kick-out-là était insane. Et ils ont pu jamais, le finish a pas eu ce degré de réaction-là. Ça veut dire que le match a été un peu trop long, puis ils ont manqué le pic. Ils ont manqué, là, quand on analyse un match, on va dire, le pic, c'était le moment où, si ça avait fini là, la foule aurait réagi au maximum. Puis ton finish, t'es censé le faire au moment où ta foule est à son pic. Et là, ils ont manqué le pic, ça veut dire qu'ils ont sûrement voulu trop en faire, trop rentrer de move. Ça allonge le match, puis parce que ça allonge le match, ben ton finish, ben c'est pas la chose qui a eu la plus de réaction dans le match, puis ça devrait pas arriver. Malgré ça, ça a été un match spectaculaire puis une belle façon de commencer le show.
Dakota Kai face à Tegan Nox.
J'ai aimé ce match-là.
C'est mon match préféré de la soirée.
Je pense que oui, moi aussi.
C'est mon match préféré de la soirée. Tout était bon, sauf la fin. Mais j'ai mis 4.5 sur 5. J'ai failli donner 5 sur 5. Les filles sont arrivées puis ont dit, nous, on n'a pas de titre en jeu. On va se donner des mauvais coups.
Ils se sont donnés, là, mais donnés.
Puis, ils ont été innovatrices dans ce qu'ils ont essayé de faire.
Ah, non,
j'ai plein de spots que j'avais pas vus depuis longtemps ou que j'avais jamais vus.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça, moi aussi. La fin, ben, écoute, moi, ce que j'aime d'un show, pour dire qu'un show, là, il est bon dans son entité, moi, ce que j'aime, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres affaires aussi. Il faut pas juste qu'il y ait des matchs. Il faut qu'on crée des nouvelles histoires. Puis, ben, on a créé une nouvelle histoire, là, avec ça. Tiens, l'arrivée de Raquel, c'est quoi, Gonzalez?
Je sais pas, man. Je l'appelle Female Diesel. Ça va être la Female Diesel de Dakota Kai. Puis Dakota Kai, c'est une heel. C'est Dakota Kai, là, OK? Elle a compris c'est quoi être une heel. Elle n'est pas là pour se faire aimer. Ça, c'est mon problème avec le match final. Là. J'aime beaucoup Adam Cole. C'est ma guy, Adam Cole. Là. Puis je vais en parler tout de suite. Ah, j'ai kické le micro. Mais tu peux pas avoir une aussi forte réaction quand t'es heel. À un moment donné, il faut faire des affaires de heel. Puis c'est pas juste que Undisputed Era vienne attaquer l'autre. À un moment donné, il faut que tu luttes comme un heel. J'ai pas besoin de voir 8 Canadian Destroyers du heel. Un, peut-être moitié deux. OK? Arrêtez de vous battre en babyface quand vous êtes des heels.
Je suis d'accord avec toi. Finn Balor, Johnny Gargano, c'était...
Le match a été long avant de pick-up, par exemple.
Oui, mais pour moi, c'était textbook. C'était un match, là, c'est vraiment le type de match où il y a un crescendo, tu commences plus slow, tu ralentis un peu le rythme, puis avec les deux matchs qu'il y avait eu avant, c'était correct de le jouer comme ça aussi. Puis là, t'arrives, puis là, écoute, c'était flawless, ce match-là. Ah, techniquement parlant, c'était tellement beau à regarder.
4.5 sur 5.
J'ai adoré.
4 sur 5, excuse.
Ah, ouais. Ah non, moi pour vrai... Pour moi, si j'avais eu à donner des notes, là, Balor, Gargano, Kai, Nox, pour moi, ça aurait été mes deux plus grosses notes devant Lee et Djakovic. Rhea Ripley, Bianca Belair.
3.8 sur 5.
C'était pas mauvais.
Mais on savait qu'il gagnait.
C'était un bon match, mais ça a pas été. Ça a été probablement le match le plus faible sur la carte.
Parce qu'on savait qu'il gagnait.
Moi.
Quand Rhea Ripley est arrivée, puis quand Bianca est arrivée, j'ai fait ah, god damn, Bianca va perdre, là. Puis quand j'ai vu que Bianca, elle avait 90% de l'offense, là. J'ai fait.
Ouais, mais en même temps. Moi, c'est pas à cause de ça que. Moi, j'ai juste trouvé que le match était plus faible techniquement. Le match n'a pas été chercher autant de réactions. La foule a beaucoup aidé au show. Hein. La foule a été hot du début à la fin. Ça aide aussi, là, un show.
Real, là.
Ouais.
Bon. Ça va pas être populaire, ce que je vais dire.
Non.
Rhea est pas prête pour WrestleMania. Hein?
Tu travailles avec Charlotte Flair, ils vont sûrement pratiquer le match une couple de fois au PC.
Si c'est demain matin WrestleMania, là, après ce que j'ai vu, Bianca Belair est plus prête que Rhea Ripley.
Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis là. Je suis pas en désaccord.
Bianca Belair devrait être dans le match face à Charlotte.
Aussi over que Rhea. Et j'aime le personnage, puis j'aime qu'on la mette over. Quand vient le temps d'un gros match, là, un takeover, un Worlds Collide, Rhea a toujours pas livré. Là. Il manque cette performance-là. Là. On n'est pas dans les Banks Bailey à Brooklyn.
Non.
On n'est pas là. Là.
Mais Bianca, oui, par exemple.
Mais Bianca, elle a toujours pas eu ce match-là non plus, mais je pense que...
Mais elle a eu meilleures performances que Rhea Ripley.
Elle a peut-être quelque chose que Rhea Ripley a pas.
Le charisme.
Rhea Ripley a du charisme. Oui, Bianca, c'est un peu... tu sais, elle puis Montez Ford, là, ça doit... Hey, pour vrai,
les parties de Noël doivent être terribles.
C'est un couple, mais Colin, ça doit être... Je veux y aller. Invitez-moi. Invitez-moi dans votre party de Noël. Broserweight qui sont devenus champions par équipe.
Yo,
qui ont battu un Despiro
d'Era. 5 sur 5.
C'est un excellent
team
combat. Ah,
wrestling
excellent combat.
At its finest.
Ah, oui,
ça, là, c'était... tu sais, quand tu vas... Tu prends du vin là, dans un resto, là.
Ouais.
Puis là, tu tournes le petit vin dans ton verre, là.
Ouais.
Quand ils font tester, là.
Ouais.
Tu fais comme, le vin est bon. Ça, là, c'était... Je me sentais comme ça.
Okay? Non, c'est vraiment
c'était
bon.
Dans ma bouche, ça roulait dans ma bouche, ce match-là. Là. J'étais saisi. Fast finish. Je savais pas qui gagnait, man. Puis n'importe qui gagnait, ça me dérangeait pas. Puis Undisputed Era, ils ont triché. Ils ont triché pour gagner. Fait que ça fait ça que quand Bruiserweight ont gagné, ben ça... J'étais plus content.
Adam Cole qui bat Tommaso Ciampa en finale à cause de l'intervention de Johnny Gargano. Johnny Gargano qui a fait perdre Ciampa, qui s'est retourné une fois de plus contre Ciampa. Donc clairement, on s'en va à WrestleMania avec Gargano Ciampa. Le match qui devait avoir lieu l'année passée, quand Ciampa s'était blessé, finalement, ça avait été Adam Cole et Gargano qui nous avaient donné un classique. Donc c'est correct, je trouve ça le fun qu'on revienne à l'idée qu'un an plus tard, ça soit ça.
Attends, la vraie question, c'est NXT TakeOver, le main event, c'est Ciampa, Cole, Gargano. Joey Janela, Spring Break, c'est Minoru Suzuki puis Orange Cassidy.
Ben non, moi, je vais y aller avec Cole, Gargano puis Ciampa.
Mais on se verra pas cette soirée-là. Moi, je vais être devant le whatever, c'est où, là?
Ouais.
Je vais avoir un chandail Orange Cassidy.
Moi,
je vais voir Orange Cassidy.
T'es sûr que c'est le main event de Joey Janela?
Ben, si c'est pas ça, je vais aller au NXT Center après.
Ouais.
Ouais, ça, c'est une bonne raison.
Ben voilà.
Hey,
les trois étoiles de la semaine, Kev.
Étoile numéro 3, John Cena, parce que je l'ai trouvé vraiment bon dans le documentaire.
Okay.
C'est la première fois qu'on l'entendait parler normalement, là, sans personnage.
Fair enough.
Et puis, je trouvais que c'était intéressant de l'avoir dans le documentaire puis d'avoir sa perspective sur ce qui s'était passé. Numéro 2, Adam Cole, même si je l'ai roast il y a deux minutes, là, c'est quand même le gars le plus over d'NXT.
Oh, non, absolument.
C'est juste que c'est pas un heel. Okay? Arrêtez de le mettre comme heel, mettez-le tweener.
Ben, je pense pas mal ça qui est là.
Non, parce qu'il est vendu comme un heel.
Ben, il est booké comme un heel. Il est vendu comme un tweener.
Excusez, il est booké comme un heel. Ouais. Booké là comme un tweener. Puis numéro 1, Dakota Kai pour le match qu'elle nous a donné. Je trouve que c'est la heel parfaite. Peut-être la meilleure heel à NXT en ce moment. Puis elle est meilleure que Finn Balor, où je viens de drop le verse. Raw. Bon, le angle...
Orton Matt Hardy, là. Ah, j'ai aimé ça.
Oui, mais t'as aimé ça. Ça a pris 64 minutes avant que ça finisse.
C'est pas grave.
Oui, c'est grave.
Oh non, moi, j'ai apprécié chaque seconde de ce
segment-là. J'ai changé de poste.
Ah, pas moi.
C'était même trop long.
Oh non, pas moi. J'ai adoré parce que Orton, la réaction de la foule changeait au fur et à mesure que Orton en remettait. Ce que j'ai pas aimé de l'angle.
Vas-y, dis-le parce que c'est probablement la même chose que moi.
C'est, je sais, de un, Matt Hardy a vraiment aucun ami.
Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait au locker room.
Il n'y a aucun ami, Matt Hardy.
Le locker room n'est jamais pointé. Là.
Deuxièmement, habituellement, si tu n'as pas d'amis, il t'envoie de la sécurité. Et là, il n'y avait pas plus de sécurité. Je ne sais pas, la grève, il y avait une grève à Everett, Washington.
Le catering. Il y avait trop de beaux pour la cafétéria.
Voyons, pour moins que ça, ils vont t'envoyer. Puis là, il y avait juste une coupe d'arbitre à l'extérieur du ring. Oh, stop, Randy, stop. Okay. Pas loin d'un micro pour qu'on l'entende. Hey, come on.
Mon problème de ce angle-là, c'est comme tu as dit, le fait que personne n'est venu l'aider.
Ouais.
Moi, j'aurais envoyé 2-3 jobbers, là, prendre des RKO.
À limite.
Comme ça fait ça qu'il n'y a plus personne qui veut sortir pour aller Matt Hardy. Puis, ça donne un peu de rythme au angle. J'ai trouvé l'angle long parce que je savais que personne sortait. Je savais qu'il n'y a plus rien qui se passait. Puis, je savais que les coups de chaise s'en venaient. Fait que, tu sais, J'ai changé de poche, je suis revenu après, puis c'était fini. Puis j'ai quand même filé mal pour m'attarder, mais l'angle était long. J'étais sur mon sel, j'ai fait d'autres choses. Ils sont où les autres? Puis le gars, il n'est pas clear par les médecins pour combattre, mais il est clear pour aller dans le ring, chiller avec l'autre. Puis quand il se fait péter, il n'y a aucun médecin qui vient. Arrête, là, OK? Donc, j'ai gros problème avec ce angle-là. MVP contre Drew McIntyre. Je suis content de voir MVP. MVP peut cut un promo pour sauver sa vie, lui. Fait que je suis content de le voir dans le ring. Par contre, j'aime mieux le voir dans un rôle de manager. McIntyre est over. Son chandail est laid. Son nouveau chandail, c'est laid.
McIntyre, là, je veux dire, il pouvait être plus générique dans sa promo. Depuis quand McIntyre, c'est un gars qui sourit à pleines dents?
Ben, depuis un mois. Fait
des... Non, c'est récent, là.
Ben, c'est un mois.
Ah, il était pas aussi souriant que lundi. Ouais. Pis c'était fake. Ça paraît. Ouais. Lui, c'est un babyface qui a besoin d'être plus agressif dans son côté babyface. Pas souriant. Puis qui fait des blagues. Hey, à go, on pointe le signe de WrestleMania. Hey, come on! Come
on! On a trouvé le teaser!
On dirait la famille slow-mo, Astic. Ah, Rock et belles oreilles. Come on! Rock et belles oreilles.
Bon, Becky Lynch, Becky Money Baby, OK? So, Becky amène un sac plein d'argent.
Oui.
Becky rentre dans le ring. Becky sort l'argent de son sac.
Oui.
Il y a un zoom sur l'argent. Il y a quelques 100 piastres qui sont autour. De une piastre, il y a quelqu'un qui pouvait pas sortir de l'argent de son compte pour pas avoir de une piastre puis mettre des... À la limite des 20 piastres, Pat.
Il y avait peut-être plus de 100 piastres dans le guichet.
À la limite des 20 piastres, Pat Laprade. Mais des une piastre, fait, elle a dit, moi, cet argent-là, man, ça vaut rien pour moi parce que je vais affronter. Des une piastre, Pat, $1. C'est comme si j'arrivais avec un sac de $1 puis je disais, je suis prêt à me battre contre Benjamin Toll. Qu'est-ce qu'il va me dire? Des une piastre. Yo, WWE. C'est-tu
des une piastre?
Attends, le contrat de télé, c'est combien d'argent par show, Pat? Puis ils m'ont sorti des une piastre. Il y a quelqu'un qui s'en fout, là.
C'est sûr.
Des une piastre. J'en reviens pas.
Mais, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est... C'est-tu moi qui a rêvé où la semaine passée, elle s'est fait arracher un morceau de peau?
Plein chill.
Puis là, elle a à peine... Hey, j'ai cherché le bandage. À un moment donné, je le voyais pas. Ses cheveux le cachaient. J'étais ici. Ils ont pas mis de bandage.
Ouais.
Je pète ma télé. Mais
Pat, tu prends ça trop sérieux.
Non, pour vrai.
Pat,
pour vrai,
tu
là.
Prends ça trop
hey,
sérieux.
J'ai fait sur pause. J'ai zoomé pour être sûr qu'il y avait un bandage. Ah. Mais à quelque part, là, elle chill. Puis elle est prête à se battre. Hey, moi, si je me fais arracher un morceau de peau, là, c'est pas vrai que la semaine d'après, je suis tout correct, là. Ouais.
Ce angle-là est pas bon, pantoute. Pantoute.
Mais là, encore plus quand il annonce Shayna Baszler dans le match de l'Elimination Chamber. Honnêtement, ça m'a choqué, ça.
Mais non.
Pourquoi vous faites l'angle avant de la mettre? Là, tout le monde sait que c'est elle qui gagne. Mais si tu veux qui gagne.
Mettons, là.
Je sais qu'on a parlé tantôt, mais ça me fâche encore.
Mettons, c'est Liv Morgan qui gagne, là.
Hey. Pour vrai.
Fait que là, Becky, ça va à WrestleMania face à Liv Morgan. Puis la fille qui a arraché son cou, elle est chill. Mais non, guys, on n'est pas des imbéciles, là.
Mais non.
Je sais pas qui book, là. Mais après, elle book.
Mais non.
Puis le reste du show, Kairi Sane, Natalia. Puis en fait, on parle même pas des main events, hein. Parce que c'est tout le temps la même chose. 3 contre 3, 4 contre 4.
Mais là ils ont amené, les Street Profits.
Les gars qui perdent tout le temps, là.
Les Street Profits.
Les gars qui perdent tout le temps.
Parce que les Street Profits, je pense qu'à quelque part, je pense que c'est eux autres qui vont tranquillement remplacer les Vikings, là, pour s'en aller vers WrestleMania.
SmackDown,
hey, Carmella, c'est peut-être un des meilleurs matchs de Carmella que j'ai vu. Et je vais donner beaucoup de crédit à Bayley pour ça. Parce que pour vrai, le match, il était meilleur que je me serais attendu.
Carmella disait dans le podcast de son copain Corey Graves qu'elle a appris sur Twitter qu'elle allait affronter Bayley à SmackDown le lundi. Fait que ça te montre à quel point...
SmackDown, c'est le vendredi.
Je sais. Mais elle écoutait Raw.
OK.
Puis elle a appris que... C'est ce qui book on the fly, là. Puis Bayley a gagné avec une tactique de méchante. Bravo. Naomi qui intervient, fait que le titre sera défendu pour la première fois de son histoire à Super Showdown. Donc, je trouve ça quand même cool. Un avancement pour la division féminine. Otis et Mandy. Bon. Pat, la semaine dernière, je t'ai dit, je vais écouter... je vais écouter vendredi, Pat.
Oui.
Saint-Valentin.
Hey, tu devais être déçu de voir quelqu'un d'autre en via satellite. Ah, ben peut-être pas parce que c'était Hogan, mais...
Non, j'ai avancé le segment.
Hey, c'était bon.
Je sais, j'ai reculé quand j'ai vu le graphique FNW.
C'était une superbe idée de faire comme le film qui parodie la NWO. Ça, j'ai bien aimé ça.
OK, so moi, c'est Saint-Valentin. Catherine est à la maison. Elle est à la maison. J'ai dit, yo, on va écouter SmackDown.
Hey, puis t'es encore avec.
Puis là, on écoute SmackDown. Je voulais commander des sushis. Il y avait trop de monde. On était au McDo. Non, on écoute SmackDown, je me sentais pas.
Non, time out. T'as-tu passé le soir de la Saint-Valentin avec ta blonde à la maison à manger du McDo devant SmackDown?
Yeah. So,
wow!
Attends, apporte la prate, j'ai pas fini.
Wow!
So, là, je suis en train d'y expliquer comment, yo, tu vas voir, ça va être bon. Otis, gros personnage, il est en date avec Mandy. Otis, c'est ma guy. Et là, tout le long, elle me dit, mais Kev, pourquoi Otis est en retard à la date? Là, j'étais comme, damn, pourquoi Otis? Puis, à chaque fois qu'on voyait Otis, elle me disait, oh, mais pourquoi il n'est pas assis à la date? Puis j'ai dit, damn.
Mais qui dit que c'est lui qui est en retard, puis c'est pas elle qui est en avance?
Ben, c'est pas elle, c'est pas Catherine qui m'a dit ça.
Ben non, mais wow, là, à ta minute, Catherine, là. Wow, là. Peut-être que c'est Mandy Rose qui est juste arrivée 20 minutes d'avance.
Peut-être.
Hey, il a été y acheter des fleurs.
Peut-être.
Hey.
So là, quand était venu, quand hey, elle est venue...
Catherine, là, t'es vraiment picky pour une fille qui accepte de passer la soirée à Saint-Valentin avec son chum devant ce McDonald's avec du McDo.
Yo, je me sentais tellement mal. En tout cas, fait que là, le moment arrive de la main sur l'épaule de Mandy. Oui. Quand j'ai vu, c'était Dolph Ziggler, là. Pat, on a fait d'autres choses à la Saint-Valentin. Parce que je savais c'était quoi qui allait arriver dans l'angle.
T'as été chercher du Harvey's?
That's dirty!
Ben, pas du Harvey's, là, c'est bon, là.
Si c'est notre commanditaire, oui. Mais, Pat, j'étais tellement fâché, j'ai dit, oh non! Fait qu'ils nous ont vendu ça pendant 2 semaines pour pas nous donner la date.
C'est sûr.
Comment c'est sûr? De quoi tu me parles, c'est sûr?
À quoi tu t'attendais? T'es tellement
ça fait 2 semaines qu'ils me promettent quelque chose. Puis après, Goldberg via satellite. Là, il m'enlève la date. J'écouterai plus SmackDown le vendredi. Je vais l'écouter samedi matin.
C'est un peu drôle. AEW. On parlait de match de filles, là, Bailey Carmella. Honnêtement.
Yo, c'était vraiment bon, man.
Nyla Rose et Rio. Wow, que c'était un bon match. C'était probablement le deuxième meilleur match de lutte féminine de la semaine, là, si on inclut TakeOver. C'était pas meilleur que Kai et Knox, mais c'était meilleur que Rhea Ripley et Bianca Belair, puis c'était meilleur que Bailey Carmella.
Moi, j'ai trouvé que le match...
C'était meilleur que Kairi Sane et Natalia.
Puis Rio, elle a cette facilité-là à aller chercher la foule.
Ouais.
Tu sais comment je parle.
Ouais, mais
tu sais comment je parle. Puis ça, c'est la raison pourquoi AEW bat NXT à chaque fois, là. Ça a l'air plus le fun de regarder AEW
ben
que
oui.
NXT.
Ben oui.
Ils sont 12 dans l'aréna à NXT, ils sont 914 000 à AEW.
J'aime que t'exagères zéro.
Jeff Cobb, qui est à... Bon, là, ça, on en a parlé, qui s'en va être face à Moxley.
Ouais.
MJF, là.
C'est un heel.
Yo, méga heel.
Ouais.
Heel heat, là.
Ouais.
Ça, là, c'est 99 WWF, là. Comme, what? Puis Jungle Boy, il est bon. Jungle Boy Jack Perry... Je trouve que c'est un bon babyface.
Le fils du père d'Archie dans Riverdale.
Gros fan de Riverdale aussi.
Oui.
Et ce que je trouvais important de dire, c'est que ces deux gars-là, ils ont 23 puis 24 ans.
Ah, ben oui, c'est le futur de la compagnie. Là.
Tag team match Paige Omega face à SCU. Moi, j'aime le fait que AEW commence. Il n'y a pas d'entrée.
Oui. Ah non, ça, j'aime ça aussi.
Là, tu sais, dès que tu ouvres la télé, tu es déjà dans le match. Là. Tu fais comme, oh shit, oh shit, oh shit.
Autre chose que j'ai aimé, tu parles d'entrée. Quand ils ont amené Britt Baker sur le stage.
Yo, mega heel.
Non, mais il n'y avait pas de musique.
Non.
T'es pas toujours obligé d'avoir une toune. Tu sais, juste de l'avoir. C'était pour un segment d'entrevue. Hey, la heat.
Ben oui.
Quand le fait s'aligne sur les Whataburger,
hey, man.
La foule l'aimait plus. Là.
Je savais. Ben, elle l'aimait déjà pas. Puis là, ils ont fait yo, don't mess with my shit. Okay?
Oh, c'était drôle. C'était drôle. Écoute, c'était un excellent segment. Pour vrai, Britt en heel.
Elle est vraiment meilleure.
Je te l'ai dit l'autre fois, puis tu me croyais pas. Ben, tu finis toujours par me croire 2 semaines après. C'est comme mon ami, ça, dans le temps, Astic, qui entendait une toune, puis qui me disait hey, c'était donc ben bon, cette toune-là. Je dis, man, je t'en ai parlé il y a 6 mois, puis tu m'as dit que c'était mauvais. Ça te prend juste plus de temps.
Vidéo package Darby Allin, j'aime ça. je trouve que Darby Allin, puis j'ai lu une affaire qui disait que toutes les vidéos package de AEW, c'est des sous-traitants, là, fait que c'est jamais la même personne qui les fait, donc ceux de Nightmare Collective, là, Darby Allin, tout le monde, fait que Pac aussi, je trouve ça vraiment intéressant, puis Darby Allin, il est très artistique dans la façon qu'il fait, puis c'était très drôle à faire avec les pancartes, donc Darby Allin, très high dans mon... J'aurais dû le mettre dans mon ranking. Je pense que si j'avais pas aimé John Cena autant hier soir, là, j'aurais mis Darby Allin.
Hey, parle-nous d'NWA Power.
Ben, y en avait même pas.
Y en avait pas.
Fait que moi... Oh, attends, on va mettre le thème, puis je vais me fâcher.
NWA Power.
Fait que là, on met un thème pour un show qui a pas eu lieu.
Ouais, mais le thème est tellement bon.
Mais oui, c'est vrai.
Le thème est tellement bon.
Moi, je pense qu'on pourrait déjà passer aux questions.
Non, mais vas-y. Ça me fâche, man. Pourquoi il y avait pas de Power?
Je sais pas.
Il y avait quelque chose, c'était le Square Circle, là. Et moi, c'est pas ça que je voulais écouter, c'était Power.
Bon.
Marc. Oh,
veux-tu te calmer? On a un thème pour ça aussi.
Vous avez oublié. J'oublie tout le temps, même People's Champ, là. Et quelle heure, là?
On a le temps, on est correct. Okay.
Marc, votre finisher si vous étiez des lutteurs.
Hey, ça, c'est dur à dire. Moi, je pense, je sais pas.
Mais moi, je veux pas une affaire que je peux me faire mal, moi, là. Okay. Moi, les affaires de Frog Splash, là, ça fait plus mal à toi qu'à lui.
Moi, c'est le finisher que j'ai, que je trippe dessus depuis longtemps. C'est mon boy qui fait ça, qui le faisait, le Package Pile Driver.
Pile driver!
Ouais, mais ça, tu peux faire mal à quelqu'un.
Mais non, mais je veux dire, tu peux faire mal à quelqu'un avec un kick dans la face, là.
Non, je sais, mais tu comprends qu'un pile driver, c'est
mais non, mais
le résultat final va être pire.
Ça dit si vous étiez lutteur. Si j'étais lutteur, peut-être que je saurais comment faire le move comme il faut.
Je pense que j'irais avec super kick.
Toi, tu irais avec genre un coup de pied dans les parties pis deux doigts dans les yeux. Tu serais un heel.
Moi, là, je serais le plus gros. Moi, mon calling, ça réduit la lutte, man. Je gagnerais en trichant, là, prendre la corde. En tout cas.
Cheap shot!
Si seulement t'étais athlétique.
J'attends mon match face à Benjamin Toll. Moi, je l'envoie. J'ai dit à Benjamin, je vais faire un match de lutte de ma vie, c'est contre lui.
Faites ça dans le ZooFest. Marc-André Perra,
Je vais être payé.
Shoot! Comme dirait Paul Heyman, and this, my friend, is a shoot. En 2020, je vais aller voir mon premier show de lutte indépendant. C'est Marc-André Perra qui demande ça, et pas moi. À Montréal, quel show, quelle fédération vous me conseillez? Ben, à Montréal, je vais t'en nommer trois. Il y a la FLQ. Fédération de lutte québécoise de Carl Leduc qui roule à peu près 4-5 fois par année les vendredis au Bain Mathieu. Il y a évidemment la IWS, son prochain show d'ailleurs c'est au mois de mars. Il y a Mustache Mountain qui va être sur le show. Jordan Devlin, ton boy Jordan Devlin, qui va être là. C'est au Club Soda. Et il y a également les dimanches soirs Battle War, une fois par mois. De temps en temps, ça se peut que tu me vois, ça se peut que j'annonce le show. Mais d'ailleurs, il y a un show ce dimanche, le 23 février, Battle War. Donc, une ambiance, c'est au Fofone Électrique. Ouais. Vraiment une cool ambiance, complètement différent comme thématique. Pour vrai, j'aime bien ça.
Le show que tu devrais aller voir, Marc-André, c'est Femme Fatale à Ottawa, vendredi prochain.
Mais il demandait Montréal. Ouais, donc, je réponds à la question.
Il est capable de conduire.
Réponds à la question de notre boy Nelson Cyr.
Nelson Cyr, si vous aviez à booker Undertaker contre Sting, qui gagnerait? Sting!
Ça dépend à quelle période. Il n'était pas précis dans sa question. Il parle-tu de maintenant ou il parle en 98? C'est un C qui va nous répondre. En 98, Sting, je fais gagner Undertaker.
T'es malade, toi.
En 98, c'est pas vrai. Avant que Sting devienne avec le bâton de baseball.
Avant le Crow Sting.
Ouais, avant le Crow Sting.
Je suis d'accord avec toi.
Maintenant, je ferais gagner Sting.
Vincent Auclair, je sais que tous les bookings de SmackDown et Raw sont approuvés par Vince, mais quels sont les critères pour créer la story en place? Ils sont juste assis et chaudent des idées, point d'interrogation. C'est quoi le processus de création?
En fait, de la façon dont ça marche, c'est qu'il y a une équipe de writers, d'écrivains.
Ils sont beaucoup.
Ils sont beaucoup. Là, on parle de 15-20 personnes qui se rencontrent à Stamford. Eux autres, là, souvent, là, ces gars-là quitteront pas Stamford. Ou la majorité quitteront pas Stamford. Ils vont pas tous sur la route. Donc, eux autres pitchent des idées, pitchent les scénarios à court, moyen, long terme. Le but là, de ces gars-là, c'est de faire plaisir à Vince McMahon. Parce qu'en bout de ligne, c'est lui qui prend toutes les décisions. décision. Donc, si tu pitches une idée puis tu le sais, Vince va détester ça, pitch-la pas l'idée, ça va juste te faire congédier, buddy. Donc, à partir de là, les idées, Vince est souvent à ces meetings-là, bien évidemment. Le show qui lui est proposé à Vince, lui il le regarde, puis là il va soit l'approuver, soit faire des changements, ouais. Ou soit carrément jeter la feuille dans les poubelles et le réécrire au complet. Pour SmackDown, parce que bon, c'est pas tapé évidemment la même journée, mais pour SmackDown, c'est souvent arrivé. Là, avant qu'il engage là Bruce Pritchard, puis avant ça Eric Bischoff, c'était ça un peu le problème, c'est que les shows ils étaient tôt. Puis c'est pour ça là, ils ont congédié l'équipe l'équipe aussi les scripteurs en chef de SmackDown, parce que lui-même était souvent toujours obligé de réécrire le show, fait que c'était jamais à son goût à lui. Après ça, ben les idées s'en vont. Une fois que Vince a approuvé le show, ben là, c'est les agents qui sont jumelés à des matchs, à des segments, et ils doivent rendre réel ou mettre en vie, en fait, les idées sur papier que les writers et Vince ont pensé. Puis c'est à ça que les agents savent. Donc là, c'est un speech, puis là, ben faut que tu l'expliques aux lutteurs comment le livrer, avec quelle émotion, où les choses s'en vont quand ils savent, parce que visiblement, ils savent pas tout le temps. Donc c'est un peu de même, ça s'en va. Il y a beaucoup, beaucoup de monde impliqué dans ce processus-là à plusieurs étapes, parce qu'il y a au-dessus d'une dizaine d'agents, il y a 20 writers, il y a Triple H qui met son mot là-dedans, qui reçoit aussi beaucoup de plaintes, donc des fois, ben c'est lui qui doit gérer un peu les plaintes puis convaincre Vince que l'idée qu'il y avait pour un gars ou une fille, ben c'était pas la bonne idée ou c'était pas bon. Fait que t'as beaucoup, beaucoup de personnes et en bout de ligne, il y a rien qui est décidé sans Vince décide.
Le line-up de Metro fait aucun sens, hein?
Et ça, c'était le segment TDAH de Kevin Raphaël.
Non, mais shout-out,
ma tête. D'ailleurs, faut ton gérant me texte back, là. Parce que moi, je veux des VIP comme l'année passée, puis Martin Ghost, là. Fait que je dis ça de même.
Mon gérant, c'est le meilleur, laisse-le tranquille.
Hey, je t'adore, Martin, mais je veux des billets VIP.
Kevin Côté. Vous parliez des meilleurs lutteurs de la semaine. Ce serait quoi la comparaison de l'influence d'El Santos avec celle de Hogan, Rock, Stone Cold, etc.?
El Santo, écoute, on est à des années-lumière. Ça se compare même pas. Et là, vous allez me dire, voyons, Pat, Hogan, Rock, Stone Cold. Non, vous comprenez pas. El Santo au Mexique, là, c'est Dieu le Père, tout puissant, c'est Jésus, Marie, Joseph, c'est tout le monde, c'est toute cette personne-là. Le gars, il a fait des films, il a lutté avec un masque, évidemment, pendant toute sa vie, il faisait des films avec un masque, c'était genre la personne la plus populaire au Mexique, et même quand il est décédé, puis ils l'ont exposé avec son masque. Il y a peu de gens qui ont vu son vrai visage. Le lutteur québécois Paul Leduc, un ancien lutteur, a été un de ceux-là parce qu'il a déjà été dans la tournée dans ses débuts à lui. Mais vraiment, il y a peu de gens qui l'ont vu. El Santo, là, vous comprenez pas, c'est Hogan plus Rock plus Stone Cold plus Bruno Sammartino. C'était ça la popularité d'El Santo au Mexique.
Moi, je pense que c'est Conan le top. El Santo, oui, mais Conan.
Ouais, il y a comme au moins 3-4 autres lutteurs qui ont été plus populaires que Conan.
On en parle une autre fois.
Au Mexique. Hey, Simon, je vais la faire, celle-là. Simon Nicole, malgré le fait que John Cena a été babyface la majorité de sa carrière, sans explorer le côté heel, est-ce qu'il est quand même considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, de votre point de vue personnel? OK, plus grand de tous les temps, là, c'est toujours flou comme concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire top 10, top 5, top 20, top 30? John Cena est un des meilleurs lutteurs et probablement le meilleur lutteur de sa génération. OK, je vais reformuler.
Ouais, parce que
je vais reformuler. Là. Attends une minute, je vais reformuler. John Cena a eu une importance énorme à la WWE dans les années 2005 à 2015. Il a transporté la compagnie sur ses épaules. Sans John Cena, je sais pas ce que cette compagnie-là aurait fait dans le poste post-air attitude. Puis c'est pour ça que c'est le premier épisode de Ruthless Aggression, d'ailleurs.
Le deuxième.
Il a vraiment, il a été le dernier à faire bouger l'aiguille. Il était le dernier. Il n'y a personne d'autre en ce moment qui bouge l'aiguille à la WWE, qui fait en sorte que les ratings, là, plus de gens vont l'écouter, que plus de gens. CM Punk s'en est approché, mais il n'a pas été là assez longtemps à ce niveau-là. John Cena était vraiment le dernier que, quand il y avait des pay-per-view, puis t'achetais des pay-per-view, John Cena faisait bouger les chiffres. Brock Lesnar, il n'est pas là assez souvent non plus. Oui, il fait bouger les chiffres, mais John Cena l'a fait constamment pendant des années. Alors oui, John Cena, selon moi, est un des plus grands maintenant. Ils peuvent être 30 dans cette liste-là, tu comprends? Je sais pas où ce qui se classe là-dedans, mais John Cena a eu une superbe carrière. Et ce que je suis content, c'est qu'avec les années, on a fini par apprécier John Cena, parce qu'à un moment donné, tu le sais, les gens ne l'appréciaient pas. Puis demande à Kevin Owens, là, si lutter contre John Cena, c'est quelque chose, puis il va dire, man, tu peux... Il n'y a rien qui se compare à lutter contre John Cena.
John Cena, là, c'est LeBron James.
Oui, sauf que LeBron James, quand il va prendre sa retraite, on va parler de lui comme étant peut-être un des deux, trois meilleurs joueurs de basket de l'histoire.
Oui, mais parce qu'au basket, c'est tangible.
Oui, exact. À la lutte, il y a beaucoup de facteurs.
Il y a beaucoup d'émotions aussi. Puis
oui,
il y a beaucoup de...
Mais vas-y.
Sauf que dans l'ère de la NBA, Kobe commençait à finir. Ouais. Il venait de gagner, mais il commençait. Puis là, t'es comme, mais qui va carry la NBA? Kobe est plus là, Shaq est plus là. Dwayne Wade, c'est pas. LeBron est arrivé, ouais. Carry la... Mais même chose avec John Cena, je trouve. Là.
Absolument. En 2004-2005, ouais. C'est ça qui est arrivé.
Les deux, on les a vus grandir devant nos yeux, ouais. On les a vus s'améliorer. Puis ces deux gars, raison pourquoi je compare les deux, tu peux reprocher quoi à LeBron James ou John Cena?
En fait, rien. Rien. Ce que tu peux reprocher à John Cena, c'est pas de sa faute à lui. C'est que la WWE l'a jamais tourné heel pour qu'il soit encore plus babyface. Moi, je persiste à croire qu'il aurait atteint... Il n'y avait pas un plateau de babyface de John Cena. Puis s'il avait tourné heel avant, je pense qu'il aurait vraiment été encore plus babyface. Puis on a fait la même erreur avec Roman Reigns. Ce que je veux dire par rapport au meilleur des plus aux plus grands de tous les temps, ouais. Tu sais, on l'a eu la discussion il y a une couple de semaines. Oubliez pas une chose, là, un bon lutteur, là, c'est pas juste ce qu'il fait dans l'arène. C'est également est-ce qu'il attire de l'argent, est-ce qu'il attire des foules, est-ce qu'il attire des ratings. Maintenant, les ratings, c'est peut-être la statistique plus importante parce qu'il n'y a plus de pay-per-view. Ouais. Puis dans tu sais, quand on parlait d'Hulk Hogan et tout ça, il y en a des lutteurs qui ont attiré. Le Rock, là, il a le record d'attirer le plus grand nombre de foules de plus de 10 000 personnes consécutives dans sa grosse run qu'il y a eu à la WWE. Ouais, c'est impressionnant, ça. 10 000, là, au niveau là, des historiens, journalistes de lutte, je dirais, il y a une barre, là. 10 000, c'est, tu sais, mettons au hockey, 500 ouais. buts et plus. Au baseball, 500 coups de circuit. Ben, à la lutte, quand t'attires plus de 10 000, mais c'est parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que le brand attire plus que les lutteurs. Ouais. À l'époque d'Hogan, de Ric Flair, de Bruno, tout ça, ben c'était les lutteurs qui attiraient. Les lutteurs étaient plus forts que le brand. Donc, si t'avais pas ton gros main eventer ou le gars qui attirait, ben, tu sais, à ce temps, ils sold out WrestleMania, puis ils ont pas annoncé un match encore. Fait tu peux pas dire que celui qui fait la finale de WrestleMania, c'est pas lui qui a attiré gate de WrestleMania, c'est le brand. Donc, c'est ça la différence. Éphéméride! Kevin, le 18 février 85, il y a 35 ans,
c'est trop vieux,
35
ça.
Ans hier, 85, c'est plus jeune que moi.
OK, mais ça va dépendre, c'est quoi que tu vas me dire, là?
OK. J'aime ça parce que tu critiques déjà mon choix.
Mais non, mais la semaine dernière, j'ai fait la même chose puis j'étais content.
La semaine dernière, c'est 74. Donc, 85, j'ai quand même augmenté, là. C'était le War to Settle the Score. Ça se passait au Madison Square Garden de New York et il y avait un match sur ce show-là qui était présenté à MTV.
C'était quoi?
Et c'était Hulk Hogan contre Roddy Piper. Et ça, là, c'est ce qui a vraiment lancé ce qu'on a appelé par la suite le Rock and Wrestling Era, où Vince McMahon voulait créer un monde où la lutte et le monde du spectacle pouvait cohabiter. Et ça a été vraiment ça qui a commencé le tout. C'était l'association avec MTV. Ensuite, t'avais Cyndi Lauper qui était sur ce show-là avec elle manageait Wendy Richter contre Leilani Kai. Donc, t'as eu cette connexion-là avec le monde du rock and roll. Et si on se rappelle bien, on est en février 85. Le mois d'après, c'était le premier WrestleMania avec justement, tu sais, t'avais Liberace, t'avais Mohamed Ali, Cindy Lauper qui était sur le show aussi. Ça a été vraiment là. Puis Hulk Hogan est devenu, MTV a été très, très, très importante dans la popularité Golden, dans la popularité de la WWF à cette époque-là. Et ben, ça s'est passé au Madison Square Garden le 18 février 85. Il y a 35 ans. Il y avait plein d'autres matchs. Pas important, c'était vraiment Hogan Piper, le match.
Très bonne éphéméride. Justin, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de rivalité entre WWE et AEW, AEW vient d'annoncer qu'ils sortent un podcast tous les jeudis en même temps que After the Bell de Corey Graves.
En même temps que nous autres.
Ah, allez donc, chier! Non, excuse.
That's dirty!
OK, le podcast est fini, mais il faut qu'on aille travailler. Merci d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Laissez-nous 5 Star Frog Splash sur Cube, Stitchers, Google Play, Apple Music, Spotify. On va avoir... Oubliez pas d'aller écouter le...
Antipod
Extra. Oubliez pas d'acheter vos billets pour Femme Fatale, qui est la semaine prochaine, comme c'est bientôt.
Oubliez pas qu'il est ce vendredi, c'est pas la semaine prochaine.
Ah, c'est ce vendredi?
Oui! Oubliez pas, c'est le 21 février. Oubliez pas d'aller voir, d'aller sur YouTube, aller voir.
Je peux venir vendredi.
Ben, on t'invite. Allez voir Gap Year, ton documentaire sur la lutte féminine.
Je peux venir vendredi.
On vous remercie d'avoir été là, tout le monde, et on vous dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Mais tu viendras pas, tu vas te choquer.
Mais non, mais je pense que
choque tout le temps, cette affaire-là. Tu vas manger du McDo en étant
Spike Down. Cheap shot.